Blanchard, je suppose que à peine ce livre était conçu, qu'on vous a dit, vous allez nourrir le communautarisme, vous allez nourrir l'ethnicisation de notre société. C'est quelque chose qu'on observe, dont on fait peut-être trop grand cas, mais on s'inquiète beaucoup de ces replis identitaires, de ces replis ethniques. Qu'est-ce que vous répondez à lui?
Comme ça fait à peu près la 15e fois qu'on nous le dit pour le 15e livre qu'on fait sur le thème, on est à peu près habitué. C'est pas une surprise.
Mais c'est pour ça que
ça fait 15 ans qu'on entend ça. Donc maintenant, le repli identitaire, il doit tellement être replié qu'il doit même plus avoir de quoi se replier une nouvelle fois. Donc on est à peu près serein maintenant. Il n'y a plus de place pour qu'il se replie. Non, je pense que c'est un débat qui me rappelle un peu ce débat. On en a parlé dans un colloque récent, les années 70, quand Paxton est arrivé avec son livre, où la presse titrait « La France va être fracturée en deux, on va rouvrir les plaies que le gaullisme avait su refermer en 45, on nous rouvre le débat sur l'épuration et la libération, au scandale ». Désolé, il n'y a pas eu vraiment d'émeutes dans les campagnes en 74-75.
On parle du livre de Paxton, « La France de Vichy ».
Exactement. Je pense qu'on est dans les mêmes fantasmes. Ça ne veut pas dire que ouvrir ce débat aujourd'hui n'induit pas des réactions, on ne peut pas induire, pourquoi pas, même que ce livre, comme d'autres, peut être utilisé et pris, voire déformé dans son appréciation, dans ses réflexions, par certains au niveau d'une certaine forme de militance, par exemple, de la repentance. On ne le nie pas. Mais en même temps, aujourd'hui, si on est lucide, le silence, le tabou, le fait d'enfermer cette question est bien plus dommageable pour la société française et la République que d'en parler. Ça fait 40 ans que la thèse du grand silence sur la période coloniale est la thèse dominante de l'État. 40 ans que, d'une certaine manière, on décide d'enfouir ces problématiques en disant « Attendez, ne les soulevez pas, ça va accentuer le communautarisme, ça va renforcer la guerre, ça va déclencher des oppositions, la République va être mise en pied, ne critiquez pas la République, c'est des armes données à ses ennemis ». Conclusion, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a le repli communautaire, il y a les ghettos, il y a une critique fondamentale qui est faite à la République qui n'a pas su regarder son passé, il y a un reproche des gamins dans les écoles qui ne veulent plus entendre l'histoire qui est enseignée par les manuels scolaires parce qu'ils disent que c'est une histoire qui est incomplète, il y a des enfants qui se sentent illégitimes dans ce pays parce qu'on ne leur raconte pas l'histoire de l'immigration depuis le début du siècle, aucun manuel scolaire, c'est tout bête vous allez me dire, mais ne dit que le métro parisien était entre autres construit par des kabyles. Vous allez me dire, à quoi ça sert de parler de ça? Ça sert qu'aujourd'hui les jeunes kabyles de France de 2005 se disent, tiens, il y a un siècle, il y avait des Kabyles à Paris. C'est peut-être bête, mais quand vous voulez être légitime dans un pays, ça commence par être légitime dans l'histoire qu'on vous enseigne. La difficulté, elle est qu'aujourd'hui, je pense que justement, le communautarisme, et encore un mot que je déteste, parce qu'il ne veut strictement rien dire, c'est d'une telle multiplicité, d'une telle complexité, le débat qui existe aujourd'hui en France, comme ailleurs d'ailleurs, fait que je pense qu'il est largement plus renforcé aujourd'hui, par exemple, on l'a vu à Toulouse, quand vous voyez dans une banlieue, au Mirail, à Toulouse, un gamin de 16 ans, qui n'a pas encore été en première, en terminale, qui est capable de vous parler du décret Crémieux de 1870, vous vous dites, tiens, ce gamin connaît l'histoire du décret Crémieux de 70, qui a donné la citoyenneté aux Juifs d'Algérie, il ne l'a pas appris à l'école. Comment un gamin de 16 ans peut connaître ce sujet? Bah parce qu'il y a d'autres intégrismes qui reviennent dans les banlieues en ce moment, à la place de la République dans les écoles, et qui commencent à enseigner une certaine forme de lisibilité d'histoire de France à travers les non-dits de la République. Conclusion, vous avez une petite bombe à retardement qui vient voir l'historien qui lui dit, monsieur, ça existait le décret Crémieux? Alors, un, vous devez travailler contre le silence, puis vous devez travailler après contre la manipulation des silences, et en plus, vous devez travailler quand ce petit gamin vous dit, et en plus, monsieur, de toute façon, moi, la seule fois où j'ai vu un arabe qui réussissait à la télévision, c'est quand il était pilote de ligne. Vous avez à la fois un énorme ensemble d'éléments qui constituent aujourd'hui son identité, qui est fait de frustration, de silence. Donc il a un sentiment que la République manipule et son histoire et l'histoire républicaine, donc il a du mal à y croire en cette République. Et en plus, il est souvent la troisième ou quatrième génération, alors celle des pères de venir mourir et repartir au pays, celle enfin, des grands-pères, celle des pères venir se battre pour les Trente Glorieuses, et qu'est-ce qu'ils ils ont l'impression de terminer comme les oubliés de l'histoire dans les quartiers de Toulouse. Là, on a démarré ce bouquin dans une étude terrain, et eux-mêmes ont le sentiment de ne pas avoir de place ni sociale, ni culturelle, ni identitaire, voire même de place tout simplement normale. Je me souviens de ce livre d'YB, je ne sais pas si vous souvenez, à La Superstar, qui disait « La difficulté quand t'es arabe en France, c'est que t'es même pas anonyme, t'es arabe ». Cette difficulté-là, elle est au creuset maintenant de ma génération postcoloniale. Parce que mes aînés, dans les années 60-70, ont pas fait le boulot. Ils ont pensé que tourner la page de l'histoire coloniale, ça suffirait. D'ailleurs, on les comprend un petit peu. C'était compliqué, on rentrait dans autre chose, un nouvel empire se construisait, l'Europe. Il y avait une sorte de nouvelle dynamique. On a pensé que cette page d'histoire se tournerait sans séquelles. Il y a eu les amnisties pour l'Algérie.
C'était vécu comme un échec aussi.
Mais c'est un échec. C'est un échec et militaire d'une certaine manière, aussi un échec de la République et parti 100 ans plus tôt.
C'est un échec des valeurs républicaines, oui.
Exactement, parce que, on le dit très bien dans le livre, ceux qui sont partis aux Outre-mer ne sont pas tous partis pour exterminer. C'est beaucoup plus compliqué la colonisation. Certains républicains qui ont cru en ces valeurs, ou des missionnaires, par exemple, ou des médecins, ont véritablement cru à leur mission civilisatrice. C'est-à-dire qu'ils se sont pris à un moment au jeu de leurs propres images. Le problème, c'est que ce serait quand même la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'une société qui a vécu 130 ans de dynamique outre-mer, voire deux siècles avant avec l'histoire de l'esclavage et les vieilles colonies, qui a quand même contrôlé, sous ses ordres, plus de 650 millions d'individus, qui fait que près de 50 pays au monde aujourd'hui sont francophones, que tout ça n'ait aucun impact sur le présent. Comme dit Jacques Chirac, d'une certaine manière, il peut dire en 2004, la France n'a jamais colonisé Haïti. C'est-à-dire que, comme le dit très bien Dorini, c'est que deux siècles après l'histoire d'Haïti, on arrive même à dire, un président sans être pris par aucun journaliste de France. La France n'a jamais colonisé Haïti. Et dans 20 ans, si on écoute un député comme Vanès, qui a fait sa loi du 23 février 2005, la France n'aura apporté que du positif aux colonies. Ok, il y a eu quelques exactions, ce qu'il vient de dire dans une émission, mais tout ça, c'est quoi? C'est une affaire d'interprétation des historiens.